Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Nous poursuivons le chapitre premier du livre de Jonas par la lecture des versets 15 et 16. Je lis « Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. » La scène qui se passe à bord maintenant est un véritable ensevelissement. Ces hommes s'approchent de Jonas, déjà voué à la mort. Ils se saisissent de lui avec ménagement, mais avec fermeté, et ils le jettent à la mer. Il est donc bien vrai que le péché est inséparable de la mort. Chaque page de la Bible nous le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut le rejeter de nos vies ou mourir avec lui. Nous usons de cruauté envers nous-mêmes lorsque nous donnons au péché une place que Dieu seul devrait occuper. Et nous armons contre nous le bras de sa justice. Nous l'avons dit, nous l'avons redit. Pour Jonas, il n'y avait pas d'autre solution que de le jeter à la mer. Encore une fois ce soir, à la mer Jonas, à la mer ce qu'il représente dans sa désobéissance, à la mer l'orgueil, à la mer l'avarice, à la mer les rivalités, les fichus caractères, les rancunes, à la mer toutes les œuvres de la chair mentionnées dans le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Et alors, l'orage soulevé dans les consciences s'apaisera. Mais de grâce, chers amis, ne faisons pas la besogne à demi. Il ne suffit pas de découvrir Jonas. Il ne suffit pas de désapprouver le coupable. Il ne suffit pas de faire des vœux pour qu'il aille à la mer. Non, il faut l'y jeter. Souvenez-vous du sacrificateur Élie. C'était un vrai serviteur de Dieu. Mais ses deux fils, sacrificateurs eux aussi, ne marchaient pas dans les voies de leur père, et même ils outrageaient l'Éternel par leur très mauvaise conduite. Dieu a reproché à Élie de n'avoir fait la besogne qu'à demi. Tu n'as pas repris tes fils. Certes, il les avait désapprouvés verbalement, mais il n'était allé qu'à mi-chemin dans la besogne. Il ne leur a pas interdit l'exercice d'un saint ministère qu'ils outrageaient. Et puis, ce Jonas, avec ce qu'il représente, il ne faut surtout pas le plaindre. Il ne faut pas lui laisser d'attache dans notre cœur. Car le péché est comme les mauvaises herbes, si vous ne les coupez qu'en surface, elles finissent toujours par repousser. Non, c'est de Jonas tout entier qu'il faut se séparer. N'oublions pas que c'est lui, Jonas, qu'il faut jeter à la mer. Et là, je précise, c'est lui, Jonas, et pas un autre. Sans doute y avait-il d'autres transgresseurs à bord. En fait, il y avait autant de pêcheurs qu'il y avait de passagers et de matelots, mais la mort d'aucun autre passager ne pouvait apaiser la mer. C'est Jonas qui doit être jeté à la mer. Par un adroit calcul, nous immolerions volontiers nos inclinations vicieuses les moins rebelles, les secondaires, quoi, avec la perfide pensée d'acheter à ce prix le droit de caresser nos convoitises favorites. Nous ferons volontiers des sacrifices spectaculaires avec l'arrière-pensée de garder notre idole secrète. Oh non ! Tous les passagers du bateau ne pouvaient pas remplacer un seul Jonas. ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu avait désigné, c'était Jonas. Les seuls sacrifices que Dieu agrée sont ceux qu'il prescrit. Que personne n'offre à Dieu quelque chose qu'il n'a pas désigné. Offrir à Dieu autre chose, c'est une offense de plus, on ne se moque pas de Dieu. Souvenez-vous que dans le cas d'Abraham, c'est Isaac que Dieu avait désigné et non pas Ismaël. Dieu désigne les choses d'une façon précise. Et s'il nous a éclairés sur un point précis, c'est celui-là qu'il faudra traiter en attendant qu'il nous révèle les autres. Sans cela, nulle paix, nul repos, nulle bénédiction dans le service de Dieu. Accomplissons ce qu'il nous demande, et quand nous l'aurons fait, lorsque nous aurons apporté ce Jonas au pied de la croix, restons vigilants. L'apôtre Paul dit, « Après avoir tout surmonté, tenez ferme, de peur qu'avoir fait ce qui est droit devant le Seigneur, nous ne soyons tentés de faire comme Sédécias, le dernier roi d'Israël, qui a mis très brièvement sa vie en règle avec Dieu, puis s'est repenti du bien qu'il avait fait. » On trouve ça dans Jérémie 34, au verset 10 et 11, je lis. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans ce pacte, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif son frère, ils obéirent et les renvoyèrent. Mais tout de suite après, ils changèrent d'avis et ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. John Nelson Darby un jour dit ceci, « À la conversion, nous abandonnons le monde en bloc, puis nous le reprenons par le détail. Le péché, c'est un ennemi redoutable, nous le portons en nous, nous l'emportons avec nous partout où nous allons. Avant notre conversion, c'était lui qui régnait sur notre vie, et comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et nous avons tous dit avec lui, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais même parfois le mal que je ne veux pas. » Mais lors de notre conversion à Jésus-Christ, le péché est descendu de son trône, et c'est Jésus que nous avons intronisé comme roi, sauveur et maître. Mais le péché, s'il n'est plus sur le trône, et s'il ne domine plus sur le chrétien, il habite encore en nous, et il essaiera de reprendre son ancienne domination. C'est un ennemi vigilant et actif, qui épie toutes les occasions pour essayer de reconquérir le terrain perdu. Et si par moment, il a l'air de se tenir tranquille, ne vous y fiez pas. C'est qu'il veut obtenir par la ruse ce qu'il n'a pas pu obtenir par la force. Le péché, c'est un Jonas qui ne demeurera pas enseveli dans l'eau. En parlant de sa vieille nature pécheresse, quelqu'un a dit, une parole humoristique que tout le monde connaît, « J'ai essayé de noyer mon vieil homme, mais il savait nager. » Eh bien, cette vieille nature que Jonas représente, elle essaiera toujours de reprendre pied. Et il suffira d'une écoutille, d'un hublot entrouvert, pour qu'elle s'y faufile et reprenne sa place. Donc, ne faisons pas le travail à demi, faisons en sorte que ce soit bien ce Jonas-là qu'on jette à la mer, et que l'apportant au Seigneur dans la confession, nous restions vigilants. Au verset 16, la phrase se continue par « Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. » Voyez la scène. Le bateau tangue de plus en plus. Ils sentent qu'ils vont perdre la vie. La mort est imminente. Ils prennent Jonas. Ils le lancent à l'eau. Et à ce moment précis, la tempête se calme. C'est ce qui s'est passé sur le lac de Tibériade déchaîné. Le Seigneur et ses disciples le traversaient dans une barque qui prenait l'eau et menaçait de faire naufrage. Jésus a parlé au vent, il a dit « Vent, tais-toi, mer, calme-toi ». Le calme s'est fait instantanément et les disciples, surpris et effrayés, comme les mariniers du bateau de Jonas, ont dit « Quel est celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent ?» Ici aussi, la tempête s'apaise en même temps qu'ils jettent Jonas à la mer. Ils furent saisis d'une grande crainte, mêlés d'une profonde reconnaissance. Et le prodigieux résultat fut que tout l'équipage s'est converti au Dieu vivant et vrai. Dieu a mille moyens pour se révéler aux hommes, jusqu'à l'infidélité de ses serviteurs. Toujours est-il que l'équipage se tourne vers le Seigneur, et qui sait jusqu'où ces gens de nations différentes iront maintenant porter le nom de l'Éternel, jusqu'où retentira la louange du Dieu de Jonas. Ils rentreront chez eux, et partout où ils iront, ils raconteront cette histoire qu'ils ne peuvent tenir secrète. La nouvelle de la fin tragique du prophète, ou considérée comme telle, va être suivie d'une délivrance miraculeuse. Quelques jours plus tard, elle se répandra dans le monde des nations. Personnellement, je pense que l'histoire de Jonas précédera le prophète à Ninive. On va en parler partout, la raconter de long en large, et elle sera un élément appréciable dans la préparation des Ninivites à recevoir la parole de Dieu. Ainsi, partout au Proche et au Moyen-Orient, et aujourd'hui chez nous, on admirera le pouvoir et la clémence de Dieu, son nom sera grand sur toute la terre, et ce que Satan avait pensé en mal, lui, le Seigneur, l'a transformé en bien. Autre chose à présent. Nous avons vu que ces hommes furent saisis d'une grande frayeur de l'Éternel. Et maintenant, ils offrent un sacrifice à l'Éternel et font des vœux. Je lis, « Ils firent des vœux » au verset 16. Ils s'engagent à ne plus reconnaître désormais d'autre Dieu que le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux. Remarquez que les vœux que l'on fait dans le péril sont souvent l'expression de la crainte et du désir qu'on a d'échapper à une situation dangereuse. Ici, les vœux qu'ils font, ils ne les font pas dans le péril, mais après la délivrance, c'est-à-dire quand le calme est revenu, quand ils sont tirés d'affaire. Je crois que les vœux faits à tête reposée et après mûre réflexion sont beaucoup plus sérieux et plus vrais. J'étais un petit garçon au début de la guerre, quand les avions de la Luftwaffe lâchaient leurs bombes sur les colonnes de civils en fuite. Que de gens ne se sont-ils pas jetés à genoux, faisant des vœux à Dieu dans le péril, mais une fois le péril passé, ils oubliaient ce qu'ils avaient promis. Mais ici, ce sont des vœux prononcés après la délivrance, des vœux réfléchis. Rien ne touche le cœur et ne le captive comme l'expérience de la bonté de Dieu. Les vents, les tempêtes, les tremblements de terre font peut-être trembler l'homme et peuvent être salutaires, mais les délivrances du Seigneur, elles, pénètrent les cœurs et les soumet. Il y a dans l'amour une force irrésistible, et tous sur le bateau sont gagnés par cette force-là. Je me souviens des années qui ont précédé ma conversion. C'est d'abord la crainte de Dieu, la crainte de la mort, la crainte du jugement et de l'éternité qui m'ont poussé à chercher et à trouver le salut de Dieu. Mais c'est l'amour de Dieu qui m'a décidé à m'en saisir. J'ai été gagné intérieurement par ce Dieu que je savais avoir irrité et qui, malgré tout, m'aimait et m'attendait. Voyez-vous, les foudres du Sinaï effraient le pécheur à juste titre, mais ne le changent pas, tandis que l'amour de Dieu, qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est ce qui maîtrise irrésistiblement le cœur. Ces deux éléments de la crainte et de l'amour se retrouvent dans un chant d'autrefois qui pose la question et donne la réponse. Où trouver une retraite? Où trouver un surabri? Quand du sein de la tempête, Dieu me parle au Sinaï. Et voici la réponse. Vois la mort que j'ai soufferte pour devenir ton sauveur. Entre par la plaie ouverte et cache-toi dans mon cœur. La deuxième strophe. Quelle cité de refuge s'offre pour l'homme perdu qu'en fuyant devant son juge, il pleure et tremble éperdu? Et voici la réponse. Vers moi sans repos ni trêve, accours, c'est ton seul espoir, mon cœur qu'a percé le glaive s'ouvre pour te recevoir. La troisième strophe. Quand il faudra rendre compte, ô Dieu, qui t'affrontera? Où cacherai-je ma honte quand ton œil me sondera? Et voici la réponse. Si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. Ces païens qui ont tremblé devant Dieu et se sont réfugiés dans l'amour de Dieu font maintenant des vœux et lui offrent des sacrifices. S'il faut admirer ces nouveaux convertis, je crains fort que leur conduite ne condamne les chrétiens dits de profession, chrétiens de nom, qui n'ont de piété que la forme, qui ne savent plus invoquer le Seigneur dans le péril, ni le bénir dans la délivrance. Il est à craindre que le témoignage de ces ex-païens ne s'élève contre d'authentiques chrétiens qui trouvent facilement le chemin qui conduit à Dieu quand ils sont dans l'affliction et qui, après avoir goûté la délivrance de Dieu, ne savent plus reprendre le chemin du trône de la grâce pour le remercier. Alors qu'au cri de « Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que nous périssons ?» qu'à ce cri réponde la parole du psalmiste qui exhortait son âme en disant « Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Avez-vous remarqué que si la révélation de Dieu est fort détaillée quant au salut, elle glisse rapidement sur le reste? La fin de l'évangile de Jean nous dit que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les livres qu'on pourrait écrire sur le Seigneur. Dieu aurait pu nous donner des dizaines de livres supplémentaires sur Jésus. Il ne nous en a donné que quatre évangiles. Et des 33 années de la vie de Jésus, nous n'en connaissons guère que 3. Cela veut dire que Dieu voulait que nous soyons attachés au Christ selon l'Esprit et non pas au Christ selon la chair. Et cela est à nos yeux une preuve de plus de l'inspiration des Écritures. Tout ceci pour dire que si la révélation de Dieu est fort détaillée quant au salut, comme je viens de le dire, elle glisse rapidement sur le reste. Le livre de Jonas est un livre, nous l'avons dit redit, un livre moral, symbolique, prophétique. Le caractère de Jonas et la façon dont Dieu s'occupe de lui préfigurent dans ses grandes lignes l'histoire future de la nation d'Israël. Hors de ses frontières, comme Jonas, Israël devient une cause de trouble pour les païens, tout en étant un témoignage pour eux. Rejeté, Israël est cependant miraculeusement préservé comme Jonas. Dans la plus profonde détresse, comme Jonas, Israël fera appel au Sauveur, sera délivré, et deviendra alors missionnaire parmi les païens. Je clôture donc avec une dernière pensée d'ordre prophétique. Dans ce récit, nous avons deux saluts. Il y a le salut limité à l'équipage et aux passagers du bateau. Puis, quelques jours plus tard, viendra le grand salut, la conversion de la métropole assyrienne. Tout cela est à la fois symbolique et prophétique. À la Pentecôte, l'Église est née. Comme les passagers du bateau, elle est composée de gens de toutes les nations qui sont appelés, en Romains 8, 23, les prémices de l'Esprit. C'est l'Église. Ce nouveau peuple a été sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ et au travers du rejet momentané d'Israël. Les prémices, c'est une gerbe coupée du champ juste avant la récolte et présentée à Dieu. Ce qui suit les prémices, c'est la récolte du champ tout entier. Ainsi, les prémices sont un avant-goût qui garantit que quelque chose de plus grand va suivre. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand on a demandé à Pierre quelle était la signification des choses étonnantes qui se passaient, Pierre fit référence au prophète Joël qui avait annoncé de la part de Dieu, je lis, dans Joël 2, versets 28 à 29, « Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Mais Pierre ne cite pas Joël exactement. Il y introduit un mot supplémentaire, la préposition « de ». Je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire que cette première Pentecôte n'a été qu'une Pentecôte partielle, les prémices d'une autre, plus grande qui la suivra et qui la complétera. C'est ainsi qu'après la conversion des passagers du bateau, il va y avoir celle de Ninive. Le bateau, c'est les prémices. Ninive, c'est la récolte. C'est le monde entier. C'est le millénium, où le monde va se tourner en masse vers Dieu à la prédication de cet autre Jonas qu'est Israël, Israël restauré. Israël englouti pendant 20 siècles, comme Jonas dans la mer des nations, Israël rejeté comme Jonas sur le rivage de son pays d'origine, Israël qui, comme Jonas, refait miraculeusement surface, se tournera vers le Seigneur Jésus, son Messie, en pleurant sur lui comme sur un fils unique, nous dit Zacharie 12, verset 10. Cet Israël-là fournira les missionnaires du royaume de Dieu. Alors, comme pour la grande ville assyrienne, les nations du monde iront se prosterner aux pieds du Messie à Jérusalem. Ils viendront briser leurs idoles anciennes et modernes. Ils exalteront la justice et la clémence du Seigneur, ils n'aimeront et ils ne serviront plus que lui. Mais en attendant, ce qui va se passer à l'échelle mondiale peut et doit se passer à l'échelle individuelle. Aujourd'hui, ce ne sont pas encore des nations qui se convertissent, mais des individus du sein des nations. Le Seigneur s'adresse à nous individuellement ce soir. Et il nous dit de nous repentir, de nous tourner vers le Sauveur, de crier à lui pour être sauvés. Ces païens l'ont fait avec une connaissance minimale de Dieu. Ils se sont tournés vers lui et Dieu les a entendus. Dieu a exaucé leur prière. À combien plus forte raison dans la nouvelle alliance, qui est une meilleure alliance, et avec un intercesseur qui s'appelle Jésus-Christ. N'importe quel pécheur, fût-il un brigand cloué sur une croix, s'il lui crie « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », trouvera le plein salut et du même coup l'entrée dans le royaume de Dieu. Le publicain de la parabole qui monte au temple en se frappant la poitrine et qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Cet homme rentre chez lui entièrement justifié, donc entièrement sauvé. Eh bien, que Dieu nous donne de découvrir ou de redécouvrir ces simples vérités, et que, comme eux, de nous les approprier personnellement. Et que Dieu nous accompagne ce soir et qu'il nous bénisse. Amen.